Yeah, okay, let's go.
Les pages. Sur Radio G. Voilà, je suis de retour dans ce petit paradis où je vient juste à l'instant de faire l'interview d'Aliona Gloukova. Nous sommes toujours sur ce petit espace, ce petit jardin, bordé par la Loire, bordé par un mur, et puis par une petite forêt de bambous. Il fait toujours aussi beau, les oiseaux sont toujours au rendez-vous. Et j'accueille maintenant Jean d'Amérique. J'ai envie de commencer cette rencontre en lisant le texte qui a été lu lors de la première rencontre que nous avons eue. Ici, il y a le parfum humain qu'on aimerait tant partager et l'odeur de cafard qui asphyxie nos paroles. Chaos au passage du jour, aube coincée dans le champ acéré des nuits, barbelés crus apprivoisant le derme de nos espérances, nous sommes des corps mêlés dans les ferrailles de la vie, des voix en mal de chansons douces, nous sommes ce quartier, un cul attendant d'être torché. Et cette image, elle vient percuter le petit paradis dans lequel nous sommes à l'instant. Est-ce que vous avez une vision désespérée de votre pays?
Non, pas du tout. Haïti, c'est un pays blessé, qui porte beaucoup de blessures et ça fait longtemps, mais qui est porté aussi par un espoir virulent. Vraiment, genre il y a toujours un fond de toutes les violences qu'il y a, de tout ce que ce pays subit sous les joues des impérialistes, des grandes puissances qui veulent pas qu'elle bouge, en fait, qui veulent pas que cette terre bouge, que ce pays voit un autre chemin, en fait. Ben, il y a toujours en fond une rage de vivre qui persiste, un espoir qui persiste. Et pour moi, c'est là qu'il y a quelque chose, voilà, qui peut... C'est là qu'il y a quelque chose qui m'amène à dire que non, en fait, c'est pas un pays désespéré. C'est pourquoi, par exemple, dans Soleil à coudre, où je décris vraiment cette... ce pays déchiré, en fait. Mais on va voir, je parle jamais de misère, par exemple, exactement, parce que pour moi... Quand on parle de misère, c'est justement cette espèce de désespoir. Pour moi, la misère, c'est l'anéantissement de l'âme même. Et c'est pas ça que je constate en Haïti. Il y a des conditions matérielles très difficiles. C'est un pays qui a été, au fil du temps, appauvri. Appauvri par... d'autres grands pays, mais qui, qui a toujours résisté, qui a toujours essayé de tenir debout, en fait. Donc, le champ humain, il n'est pas éteint. Il y a de l'espoir, il y a l'envie de vivre. Et pour moi, ça, c'est pas la misère.
Ça, c'est ce que moi, j'ai cru comprendre dans ce que vous avez écrit. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai lu de vous, c'est trois livres. C'est « Cathédrale des cochons », c'est le recueil de poèmes « Atelier du silence » et le roman « Soleil à coudre ». Et effectivement, on ne sent pas, enfin, dans votre travail d'écriture, il n'y a pas de plainte ou de misérabilisme. Peut-être plutôt, alors peut-être que je me trompe, mais peut-être plutôt à certains moments de la colère.
Beaucoup de colère, ça c'est sûr.
Quand nous nous sommes rencontrés la première fois, j'avais parlé de votre texte théâtral, court texte théâtral, qui s'appelle « Cathédrale des cochons ».
Ouais.
J'avais dit que, et je peux le redire là aujourd'hui, je ne suis pas sorti indemne de ce texte. Hein. Je ne suis pas sorti indemne de la violence intérieure à ce texte, complètement crue. Ça tient en très peu de pages, ce texte. On n'est pas dans l'exotisme, loin de là. On est au cœur de Haïti.
J'espère.
Ce texte, il est né comment, ce texte « Cathédrale des cochons » ?
Alors, « Cathédrale des cochons », j'ai entrepris l'écriture de ce texte au lendemain d'un massacre d'État qui a eu dans un quartier populaire à Port-au-Prince qui s'appelle La Saline. Et ouais, il y a eu un vrai massacre d'État dans ce quartier où autour de 70 personnes ont été tuées ouvertement. Et par la suite, enfin, à la même période, en fait, il y avait des contestations populaires qui prenaient forme à Port-au-Prince contre le pouvoir en place, contre la corruption, etc. Et c'est dans cette ambiance-là, j'étais à Port-au-Prince, et c'est dans cette ambiance-là que j'ai commencé à écrire le texte, parce que, en fait, c'est comme si je vivais une réalité presque qui me dépassait, c'est-à-dire quand je descendais dans les rues, dans les manifestations, à chaque fin de journée, ça se soldait par des morts, en fait. Ça se soldait par des blessés. Et en fait, j'avais trouvé une brèche dans l'écriture. En même temps, voilà, c'est comme si le bruit des balles assassines, c'est comme si ça venait... peut-être que ça peut paraître paradoxal, mais ça venait rythmer le texte. Et c'est pourquoi il est aussi saccadé, aussi peut-être même bruyant, dans le sens que c'est un grand cri que j'ai essayé de déployer. Et je me souviens, j'avais écrit très vite en tout cas une bonne partie du texte, j'avais écrit très vite, et puis après ça c'est, ouais, j'ai continué à laisser mûrir ça et à retravailler, mais comme on peut le voir, c'est vraiment un texte qui est né d'une urgence de pousser un grand cri, en fait. C'est tout à coup un personnage qui est ravagé par une parole et il faut que ça sorte de son corps. C'est un peu comme une espèce de sueur chaude. Il faut que ça coule tout de suite, il faut que ça explose, en fait. Et j'ai essayé aussi, à travers cet exercice, de voir comment la parole poétique peut confronter la répression en quelque sorte, dans le sens que le personnage du texte, qui est donc un poète détenu, et c'est depuis la prison qu'il adresse cette langue logorée à son amoureux qu'il n'a pas vu depuis 6 mois. Et en fait, on sent que plus que l'envie de parler à cet amoureux, en fait, c'est plus le cri de sa ville blessée qu'il porte, en fait. C'est une cartographie de son pays, empreint de beaucoup de violence. Et il se plaît pas seulement à ressasser cette violence et tout, mais c'est comme s'il essaye de prendre le pouvoir sur cette violence avec la parole. Je parle beaucoup.
c'est bien pour ça que vous êtes là. En vous écoutant un instant, je viens de comprendre une chose de votre écriture. En fait, je viens de lui mettre un mot dessus. C'est une écriture charnelle, physique. Elle nous prend dans nous, dans notre chair, complètement. On est presque colonisé par les images que traduisent vos mots. Quand je dis colonisé, on n'est pas capté, mais tout d'un coup on est habité, on ressent ce que vous racontez, ce qui est écrit, et je suis en train de me rendre compte en vous écoutant que je comprends ce qui s'est passé en moi quand je vous ai lu.
Ça fait plaisir de l'entendre.
À la fois dans Cathédrale des Cochons, mais aussi dans Soleil à coudre, vous parlez d'un aspect de Haïti et de Port-au-Prince, mais vous ne parlez que des quartiers pauvres.
Je ne parle pas que des quartiers pauvres. Disons que, en fait, moi, je m'intéresse à ce qui se passe dans la marge, dans les bas-fonds, c'est-à-dire là où ça va mal, là où, là d'où je viens aussi, et du coup, ce que je connais aussi, en fait. Du coup, voilà, je pars de ces lieux-là, j'écris à partir de ces lieux-là, mais pour parler à tout le monde, en fait. Parce que c'est des situations qui sont, enfin, qui se passent, ok, dans un coin du pays, mais qui concernent le pays, qui concernent au-delà du pays, le monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment puiser là pour mettre au jour cette parole des marginalisés, cette parole des laissés pour compte. Moi, c'est uniquement, en tout cas pour l'instant, c'est dans l'écriture que j'ai l'occasion de réparer ça.
Vous êtes la voix.
C'est beaucoup comme responsabilité. J'ai pas l'intention d'être le représentant, voilà, en tant que tel, de milliers de gens, mais moi je suis conscient que l'écriture, la littérature, c'est un espace où on a beaucoup de pouvoir finalement. C'est-à-dire que on a la possibilité de parler, quoi, de dire des choses. Et moi, je profite de cet espace-là pour dire des choses qui comptent pour moi et qui sont nécessaires à ma vie, à mon existence. D'ailleurs, c'est le premier lieu où je me suis senti exister dans la société, dans le monde. C'est la littérature. Donc, je peux pas faire n'importe quoi avec. Et de toute façon, c'est Franck Etienne, qui, un écrivain haïtien, qui avait dit ça. On ne pourra jamais écrire beaucoup plus que ce qu'on a vécu, en fait. Donc tout part de là.
Alors on parle de quartier, on parle de pauvreté, on parle de violence. Il y a peut-être une des images qui m'a... Une des premières images qui m'a marqué dans Soleil à coudre, c'est le personnage principal, la narratrice. On va revenir sur elle, mais c'est une des premières choses qu'elle décrit. Elle est chez elle, et puis c'est le matin. Et puis en fait, elle se pose une question, il faut aller chercher de l'eau, il faut faire 500 mètres. Et puis elle dit à un moment donné, des fois 500 mètres c'est trop long, donc des fois je vais préférer acheter de l'eau à quelqu'un qui en a déjà, mais qui habite moins loin, parce qu'en fait ce sera plus facile. Et je crois que là, vous donnez un tableau d'une géographie très simple, violent, simple, basique, qui nous ramène à ce que c'est que les nécessités de chacun. Ça, c'est la première image. Deuxième image, alors vous avez une... je ne sais pas d'où ça vient, mais vos personnages portent des noms. Voilà. Alors, l'héroïne s'appelle Tête Fêlée. La mère de l'héroïne s'appelle Fleur d'Orange. Il y a un caïd qui s'appelle L'Ange de Métal. Tête Fêlée appelle son amoureuse Lune. Ouais. D'où ça vient cette manière de désigner les gens?
En fait, ce que je me suis d'abord dit, en fait, les noms des personnages, pour moi, ça relève aussi de la création. Ouais, tout à fait, parce que, en fait, ouais, je me dis, ça ne me sert pas à grand-chose d'appeler mes personnages Jean, Roselyne, etc. Là, j'ai l'occasion, c'est moi qui suis en train de créer les personnages. Ben, je me plais bien à leur créer vraiment des prénoms et qui sont à la fois des gestes, des petits gestes poétiques à l'intérieur du texte, mais parfois aussi qui racontent quelque chose sur le personnage, déjà. Ou qui renvoie un paradoxe en fait sur la vie du personnage en fait.
C'est le cas. Alors je pense, je prends juste le cas de la mère Fleur d'Orange. Ouais. Quand on entend Fleur d'Orange, on imagine quelque chose de doux, avec un parfum très agréable, même d'ailleurs avec la redondance de la couleur. C'est une prostituée. C'est terrible sa vie de prostituée, ce à quoi elle est conduite.
Ouais.
Et
aussi, par ailleurs, elle subit beaucoup de violence, notamment de la part de papa, son mari, mais aussi la façon justement dont elle est traitée dans son métier de prostituée. Ouais, elle subit beaucoup en fait.
Elle subit beaucoup. Elle s'émancipe par la prostitution, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'en fait, elle a ses trois clients qui vont lui permettre d'assurer sa vie économique, mais c'est de la prostitution quand même. Et donc, il y a quelque chose là de très, très violent. Ouais, très violent.
Ouais, et puis aussi, on voit... en fait, pas en plus pas avec n'importe qui aussi, parce que il y a le fameux là, le politicien dont le cul est fabriqué toutes les chaises,
voilà, le politicien, sa dénomination, le politicien dont le cul est fabriqué pour toutes les chaises.
Ouais,
c'est fantastique cette
j'ai pris beaucoup de plaisir à nommer ces personnages comme ça, de faire en sorte que le nom raconte quelque chose, que le nom soit une métaphore de la vie du personnage, et parfois que ça soit tout à fait un paradoxe par rapport à ce que le personnage vit.
Mmh. Une des questions que je me suis posée en vous lisant, voilà, vous êtes en ce moment en France, vous habitez dans plusieurs endroits, je crois que vous êtes aussi en Belgique.
Oui, j'habite entre Paris, Bruxelles et Port-au-Prince.
Alors la question qui me vient, c'est est-ce que cette situation, est-ce qu'elle vous libère de votre pays ?
Me libérer de mon pays, je sais pas. Je sais même pas si j'ai envie de me libérer vraiment de mon pays. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Moi, Haïti, c'est, disons que c'est imprimé dans ma chair à la fois au niveau de mon imaginaire parce que c'est le lieu de mon enfance. Donc, tout est là dans ma tête et j'écris beaucoup à partir de ça. Ou bien aussi parce que j'ai vécu beaucoup là-bas et ouais, il y a tout un, comment dire, il y a beaucoup de bagages d'Haïti en moi en fait, et toute ma tentative d'écriture souvent passe par ça en fait, ce vécu là. Parce que au final, on écrit à partir de ces souvenirs en fait qu'on va essayer de transformer à partir d'une réalité qu'on va transcender à travers l'écriture pour arriver à une vérité, une certaine vérité, parce que ouais, je pense. On a le réel qui est la matière, mais il y a une quête de vérité qui passe par la transformation de ce réel-là. Et ce réel-là, pour moi, il vient d'abord d'Haïti. Et le fait d'être ailleurs, à la fois, ça ne m'empêche pas En fait, ça ne m'empêche pas de garder ces éléments haïtiens, tout comme ça ne m'empêche pas d'ouvrir mes fenêtres à d'autres vents, en fait. Et je pense beaucoup à ce terme qu'a inventé un écrivain haïtien très important qui s'appelle Jean-Claude Charles, qui parle d'enracinérance. C'est un mot que j'aime beaucoup, enracinérance, parce que ouais, ça dit tout de cette situation-là, en fait. On vient de quelque part, mais on erre à la rencontre d'autres paysages sans perdre ses racines-là, en fait. C'est qu'on grandit à chaque pas, on grandit à chaque voyage, on découvre autre chose et ça devient un maelstrom d'images, de paysages qui forment notre identité, si je peux dire, mais mutante quand même.
J'entends bien et je crois que ça se lit bien dans ce que vous écrivez. Vous êtes ontologiquement haïtien. et vous ne le reniez pas. Et je trouve ça, moi, dans votre écriture, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans Soleil à coudre, pour moi, c'est un livre important, c'est un roman important. Véritablement. Parce qu'il est à la fois haïtien, mais ça nous parle du monde. Ça nous parle d'Haïti, mais ça nous parle du monde. Je repense à une des séquences du roman. Vous décrivez une scène de migration par bateau de Haïti vers les États-Unis. L'héroïne a l'opportunité de migrer. Et ce que vous décrivez, être au bord de l'eau, voir le bateau, monter dans le bateau, être dans le bateau, ça nous renvoie à ce que vivent des Syriens, des Libyens, à ce que vivent les habitants d'Afrique subsaharienne. maintenant à ce que vivent les migrants dans la Manche, entre Calais et l'Angleterre. Mmh. Et ça renvoie aussi même à des images beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anciennes, à la fin des années 70, quand les Cambodgiens, les Laotiens ou les Vietnamiens s'échappaient. On appelait ça à l'époque les boat people. Oui. Et vous êtes, c'est en ce sens que je dis que vous avez une écriture qui est diablement plus vaste que simplement Haïti. Vous décrivez aussi le monde. Cette séquence-là, elle est irréelle. La séquence où l'héroïne va, s'en va retrouver son amoureuse à New York, d'ailleurs. Mm-hmm. Hein? Cette image-là, cette séquence-là, elle vient d'où ?
Elle vient d'une situation très concrète, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'Haïtiens à travers le temps qui migraient vers les États-Unis dans ces conditions-là, des boat people. Donc c'est une situation qui existait et qui existe vraiment. En Haïti, j'ai beaucoup puisé là-dedans, mais comme tu dis, ça fait écho à plein d'autres situations un peu partout dans le monde en termes de migration. Et d'une manière un peu plus générale, moi j'écris à partir de petites situations comme ça. Mais pour moi, c'est ça qui est intéressant de faire, en fait, c'est de partir d'une certaine particularité et pour arriver à évoquer quelque chose à l'humanité. Et pour moi, on n'a pas besoin... l'important, c'est pas de parler de ce que tout le monde connaît, parce que si tout le monde connaît déjà, c'est bon, dans le sens que j'ai pas besoin de faire un livre sur Paris pour que ça soit universel, ou sur Berlin, sur ce que tout le monde connaît, en fait. Moi, je m'intéresse vraiment à de petits lieux, à de petites situations que je connais. Donc j'écris à partir de mes lieux pour parler au monde. Et c'est pour ça que forcément on va ressentir qu'il y a un écho chez d'autres peuples, d'autres gens qui lisent cette situation qui se passe en Haïti.
Mais c'est un roman, mais c'est de la littérature. Comme quoi le pouvoir de la littérature, il est bien plus vaste qu'on ne le soupçonne traditionnellement. C'est de la littérature, et dans cette séquence-là, vous allez deux fois dans la littérature, puisque l'héroïne part avec un livre.
Ouais.
C'est le seul livre qui est cité dans ce roman. C'est « La vie devant soi ».
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui fait que Tête Fêlée... Mm-hmm. Alors, elle trouve le livre chez elle, mais c'est étrange que « La vie devant soi » de Romain Gary et Mila Jarre, mm-hmm, soit dans une case en Haïti et fasse le voyage avec cette jeune fille.
En fait, elle découvre ce bouquin comme ça, et elle met ça dans son sac, elle décide de partir avec, et en fait, à la fois pour évoquer le livre comme élément dans ce paysage-là, dans ces lieux-là, comme une espèce de métaphore dans notre rapport au monde, parce que le livre a Bon, je crois pas forcément au pouvoir magique du livre en soi, de la littérature en soi, mais je pense que c'est une grande fenêtre, en tout cas, sur la vie, sur le monde, qui peut nous aider à voyager autrement. Donc pour moi, déjà, dans le côté symbolique des choses, c'était important. Tout comme il y a d'autres références à de la musique, d'ailleurs pas mal. Et pour moi, ça fait partie de choses qui viennent, comment dire, participer à la construction de l'esprit. Ce qu'on va voir, par exemple, avec le personnage qui s'appelle Papa, dans le texte, il y a tout un cheminement où il essaye de conquérir une autre face de lui-même, en fait, une espèce de reflet qui lui échappe à chaque fois. Et on voit Tête Fêlée quand elle trouve ces disques et ce livre dans la case, ouais, qui va se questionner en se disant, ben, peut-être que papa, il voulait vraiment chavirer vers un autre univers. Et voilà, il y a ce livre qui va l'accompagner comme un symbole, en fait, pendant le voyage.
C'est un double.
Et qui a des trésors pour elle.
Et c'est un livre particulier, parce que La vie devant soi, pour Romain Gary, on peut dire que c'est le livre d'une renaissance. Et pour Tête Fêlée, ce voyage, c'est la tentative d'une renaissance.
Ouais, tout à fait. En fait, Tête Fêlée, comme personnage, elle a beaucoup vécu, elle s'est toujours battue aussi pour rester debout. C'est une perpétuelle quête de lumière, en fait, parce que on a l'impression qu'elle est enveloppée par des ombres. Elle est vraiment dans une espèce d'odyssée ténébreuse pendant tout le texte, et en fait elle essaye toujours de tenir debout, et elle y arrive. Elle se bat et elle y arrive. Et cette force-là, cette quête de lumière absolue, pour moi, ça faisait écho aussi, en quelque sorte, à ce livre, en fait, La vie devant soi. Ouais, je pense que la vie de Tête Fêlée comme personnage peut faire écho à ce que raconte La vie devant soi.
Alors,
et c'est pas pour rien, donc c'est une référence, mais très subtile, en fait, tout comme je le fais avec de la musique.
On entend bien, mais ce qui m'avait pas interpellé, on se pose nécessairement la question dans un livre qui est un livre d'écriture, d'une écriture forte, vraiment forte, et d'une vraie écriture, c'est-à-dire qu'on n'est pas, je l'ai déjà dit, pas dans le misérabilisme, on n'est pas dans l'auto-apitoiement, on est dans une écriture de colère et de combat. Quand il n'y a qu'une seule référence de livre, on est obligé de parler de la référence du livre. Sinon ça serait incompréhensible. Et quand on pense à la vie de Tête Fêlée, qui est une vie, là aussi, extraordinaire, ce qui arrive à cette jeune fille, les décisions qu'elle prend, les actes qu'elle engage, relèvent tous de l'extraordinaire. C'en est bouleversant. Ça m'amène à une question. Le personnage principal de ce roman, c'est une jeune fille. Pourquoi ce choix d'une jeune fille ?
Moi, je m'intéresse à cette tentative de bouleverser la manière de raconter, de proposer d'autres formes de récits, en fait. C'est-à-dire, j'essaie de créer des personnages un peu atypiques, les mettre dans des situations où on ne les attend pas forcément. C'est-à-dire, par exemple, voilà, on attribue souvent l'image de la violence au masculin, en fait, tout simplement. Et dans les romans, dans les récits qu'il m'est donné de lire souvent, je trouve qu'il y a... Enfin, que ça me manque souvent, en fait, d'autres représentations, en fait, d'autres formes de représentation des personnages. Et moi, j'ai pas forcément envie d'écrire, genre, contre ça, mais tout simplement de faire d'autres propositions, en fait. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre cette petite fille là où on attendrait évidemment un garçon. Voilà, parce que j'ai envie d'écrire ce que je trouve pas à lire ailleurs, en fait.
Alors dans votre recueil de poèmes qui s'appelle Atelier du silence, il y a un poème qui s'appelle Tour du monde effondré, dans lequel vous dites à la fin, ce sont les deux derniers vers, le monde se porte mal, mieux vaut être nu. C'est la seule alternative ?
Sans doute. Sans doute. Oui. Non, mais voilà, J'aime beaucoup ça de jouer avec les images, souvent créer une certaine polysémie avec les mots. Donc ouais, on a souvent un double sens, quoi. On a l'impression que on parle de ça, mais en fait on parle de ça aussi. Ouais. Et bon, particulièrement sur ce vers-là, sur ce poème-là, qui... Pas une tentative de résumé, mais le monde tel qu'il est, je pense pas que j'en suis content, quoi.
quand moi j'ai lu ces poèmes, j'ai lu en premier Cathédrale des cochons, puis... Soleil à coudre, puis je suis revenu au poème. Là, je me suis un peu promené, et quand on est imprégné de votre écriture et qu'on tombe sur ces vers, on se dit, c'est une hypothèse possible, mieux vaut être nu. Ce retour à un état comme ça, un état premier, c'est les conditions d'un cri possible, d'une lutte possible, d'une colère à exprimer possible, de redevenir nu, de retirer tout.
Oui, je pense que, en fait, là où on est, voilà, dans le monde, dans la situation de l'humanité, on ne peut pas rester sans rien faire. Après, c'est une lutte perpétuelle, c'est un combat constant, mais c'est clair que il faudra renaître, en fait. Il faudra renaître, il faudra repeindre le monde, il faudra, je sais pas moi, retrouver vraiment un autre chemin, une autre perspective. Et je crois que ça passe beaucoup, bon, pour le coup là, dans ce poème, il y a une image qui renvoie à quelque chose de physique peut-être au premier abord, mais moi je crois que cette renaissance, elle passe beaucoup par la lumière qu'on peut donner aux êtres, en fait. Ouais.
Quelle plus belle conclusion possible, je crois pas, puisqu'on ouvre toutes les possibilités avec ces mots que vous venez de prononcer. Je vous remercie, Jean d'Amérique, pour cette conversation. Je vous souhaite une très bonne fin de résidence. Moi, j'ai été heureux de vous lire et je pèse mes mots, même si ce que vous racontez est d'une violence extrême. C'est une tellement belle écriture que ça rend heureux de se dire qu'on peut, que l'écriture, c'est possible.
Merci beaucoup, Luc.
Je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Yeah, okay, let's go.